9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Blondel.
Bonjour Charles Anderlin.
Bonjour.
Bon, je vous entends parfaitement. Où êtes-vous exactement, Charles Anderlin ?
Ben écoutez, chez moi, Jérusalem.
Vous êtes une figure dans le monde du journalisme, pas seulement français mais international. Vous avez tenu le bureau de France 2 à Jérusalem de 91 à 2015, une sorte de record. Et votre actualité, c'est un essai, un récit. Ça s'appelle « De notre correspondant à Jérusalem ». C'est publié aux éditions Don Quichotte. Quelle est l'ambition de ce livre ? Est-ce que c'est raconter 34 ans de votre vie de correspondant de France 2 à Jérusalem, comme il est dit dans le titre, ou alors retracer un demi-siècle d'espoir et de violence au Moyen-Orient, comme il est dit dès la première phrase ?
Écoutez, l'idée de ce livre est venue en fait de conférences que j'avais données en 2018 à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris, chez le professeur Michel Wieworka. Et l'idée, c'était d'expliquer le travail du correspondant, du journaliste en poste à l'étranger. Et de ces conférences est sorti ce livre. Il s'agit en fait d'essayer d'expliquer au lecteur comment ça fonctionne, quelles sont les relations entre l'envoyé spécial, le correspondant et la rédaction, quelles sont les difficultés auxquelles on peut faire face dans un pays qui est assez agité, où il faut être sur la ligne de fracture entre deux sociétés en conflit. Enfin voilà, c'est ça l'idée de base du livre.
Vous revenez sur votre carrière de journaliste, mais également votre parcours de citoyen. Je vais faire une rapide bio de vous-même. Vous êtes franco-israélien, vous avez démarré votre vie en France, vous avez fait médecine à Nancy, puis la tornade mai 68 est passée par là. Vous avez quitté la France pour Israël, dont vous avez le passeport, je brûle des étapes. Vous avez été correspondant pour la radio RMC en 73, puis pour Antenne 2 à partir de 81, et vous avez été nommé chef du bureau de France 2 à Jérusalem en 91. Alors dans ce livre, il y a de la grande et de la petite histoire, vous êtes témoin de beaucoup d'événements, mais cela va même plus loin que ça parce que vous en êtes parfois acteur, partie prenante, comme lorsque vous aviez prêté votre bureau à des émissaires palestiniens et israéliens pour qu'ils puissent se rencontrer en toute discrétion, voire négocier. Ça s'est passé, si j'ose dire, sous votre égide.
Écoutez, oui, maintenant, mon grand problème était justement de ne pas intervenir. C'était une époque, c'était les tout débuts de la seconde intifada, fin 2000. Les négociations étaient officiellement bloquées. Le Premier ministre Ehud Barak refusait de relancer les discussions, officiellement de relancer les discussions avec les Palestiniens. À ce moment-là, j'étais en train de préparer un livre et un film, justement, sur la relance du processus de paix par Ehud Barak. Je faisais des interviews en temps réel avec les deux parties, aussi bien avec des dirigeants israéliens qu'avec des négociateurs palestiniens, le chef de cabinet de Barak, en promettant de ne jamais dire à l'un ce que l'autre m'avait révélé, étant entendu que tout cela serait dans un film ou dans un livre beaucoup plus tard. Mmh. Et puis un beau matin, alors que tout était théoriquement bloqué, j'ai un émissaire européen qui m'appelle et qui me dit « Écoute, dans ton bureau, tu vas interviewer Saeb Erekat, le négociateur palestinien. » Ah bon, d'accord. Saeb Erekat arrive et puis ensuite, tout à coup, je vois un ministre israélien arriver, il s'enferme dans mon bureau. Mon problème était en aucun cas juste d'être, si vous voulez, celui qui loue la facilité, de ne pas participer, de ne pas intervenir. C'est ce que j'ai plus ou moins réussi à faire. Il y a une seule fois où j'ai failli dire à l'un ce que je savais de l'autre. Mais cela m'a permis effectivement, à partir de là, de faire aussi bien le film Le Rêve Brisé que le livre.
Et jeudi, dans Libération, Alexandra Schwarzbrod écrivait « La plupart des journalistes envoyés en poste dans un pays en guerre ou déchirés entre plusieurs cultures, peuples ou religions, ont éprouvé un jour ce sentiment d'être eux-mêmes déchirés. Est-ce que vous reconnaissez dans ce déchirement ?»
Écoutez, oui, j'ai quand même, israélien, français, juif, j'ai assisté à des moments extraordinaires. L'arrivée d'Anwar el-Sadat à Jérusalem en 77, c'était l'équivalent de l'homme sur la Lune. Mmh. C'était absolument incroyable. On venait d'avoir, quelques années plus tôt, une guerre terrible avec des milliers de morts. Et on craignait la reprise de la guerre.
Mais ça, c'était pas un déchirement, parce que... pardonnez-moi, ce n'était pas un déchirement, parce que vous étiez officiellement pour la paix. Est-ce que parfois vous vous êtes de quel côté je suis? Parce que vous avez cette étonnante caractéristique d'être correspondant dans votre propre pays, puisque vous êtes israélien autant que français, ce qui vous a posé plein de problèmes, notamment au moment de la première intifada. Nous étions en décembre 87, et vous écrivez, page 66, à Paris. Au sein de la rédaction de France 2, une question se pose. Anderlin est israélien, peut-il couvrir le côté palestinien? Je vous pose la question.
Bah écoutez, la réponse a été oui. Je suppose qu'il y a eu un moment où j'étais effectivement sous la loupe d'un certain nombre de personnes, y compris les rédacteurs en chef à Paris, qui ont fini par me donner absolument confiance et m'ont soutenu. Maintenant, le déchirement, oui. Le déchirement, c'est d'avoir assisté à l'effondrement du processus de paix. Connaissant les deux côtés aussi bien les responsables israéliens que les responsables palestiniens, et j'ai rencontré à plusieurs reprises Yasser Arafat, j'ai passé des soirées avec Arafat à Ramallah et à Gaza, je sais que les deux parties pouvaient parvenir à un accord. Et ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait selon moi, en raison justement des extrémistes, des ultras des deux bords.
Mmh. Et pour être complet sur ce sujet, parce que tout ne peut évidemment pas se résumer aujourd'hui, ce matin, vous avez parfois été accusé d'être un agent du Mossad, et également vous avez été traité de juif qui avait la haine de soi et d'Israël. On en est là. Charles Anderlin, on va continuer à parler avec vous de ce livre, de cet essai, de notre correspondant à Jérusalem, et on a encore plein de questions médias à vous poser. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Charles Anderlin, journaliste, grand reporter, qui publie De notre correspondant à Jérusalem. On va parler médias. Vous avez été 34 ans en poste à Jérusalem. On va savoir comment ça se passait avec vos différentes hiérarchies à Antenne 2 puis à France 2. Déjà à la louche, en 34 ans de poste, vous avez connu combien de présidents et présidentes, combien de directeurs et directrices de l'info?
Ah ben écoutez, là, vous me prenez tout à fait par surprise. Je n'ai pas fait le compte. Peut-être une bonne dizaine maintenant. Effectivement, à chaque fois qu'un nouveau président arrivait à France Télévisions, il y avait des changements dans la rédaction, que ce soit le patron de l'info, le chef de tel ou tel service. C'est une rédaction qui changeait beaucoup. J'ai gardé d'excellents souvenirs de patrons de rédaction qui sont devenus des amis très proches. Pour ne citer que Claude Carré, qui a été le premier à décider de me donner un CDI le 1er janvier 1991. Arlette Chabot, avec qui nous avons eu une véritable bataille judiciaire face aux gens qui m'accusaient d'avoir diffusé une mise en scène. Enfin, on a eu des périodes un peu intéressantes.
Et ça continue toujours, puisque rien que sous la présidence de Delphine Ernotte, je viens de le noter comme ça, et Michel Field était le patron de l'info, puis Yannick Letranchant, et maintenant c'est Laurent Guimier. Vous parlez des années 80 comme une période bénie. Internet n'existait pas, on vous fichait la paix. Ça allait même plus loin. Vous racontez, quand vous vouliez contacter Paris en cas d'urgence, il fallait trouver une cabine téléphonique, mettre un jeton dans la machine et les appeler en PCV. On a peine à le croire. C'était vraiment comme ça que ça se passait.
Ah oui, jusqu'à l'arrivée des téléphones portables. Et à ce moment-là, on a eu aussi l'Internet. Et puis ça a tout changé, parce que subitement, vous aviez un rédacteur en chef ou un patron qui vous appelait. Écoute, j'ai vu telle image sur les agences, ou alors telle chaîne a vu, alors je veux que tu la mettes dans ton sujet. Mais attends, ce n'est pas ce que j'ai filmé, ça fait rien, tu te débrouilles, tu le mets dedans. Et puis on arrive à distance, grâce effectivement au cloud, au nuage, à descendre une image qu'il faut utiliser. Ça a été une période un peu formidable, par exemple pendant la révolution en Égypte contre Moubarak. Moubarak a eu l'excellente idée, avant qu'il ne quitte le pouvoir, de fermer Internet, de fermer les téléphones portables. Et tout à coup, on se retrouvait à travailler comme à l'époque préhistorique, où il fallait utiliser une ligne fixe et puis appeler Paris, leur dire « Alors voilà ce qu'on a filmé, voilà ce qu'on vous envoie, et puis on a quand même un satellite ». Là, c'était plutôt sympa. Maintenant, depuis, je vois régulièrement mes confrères travailler en liaison permanente avec leur téléphone portable à la rédaction. Alors, j'écris quoi? Je dis quoi? C'est l'indépendance du journaliste, du reporter de terrain qui est en train de se perdre.
Ça va même plus loin, parce que vous racontez des exemples assez difficiles où on oblige des gens. Vous racontez, par exemple, ce que la rédaction en chef a imposé une fois à Alain Chalvron, grand reporter de France 2. Je vous cite, après l'élection en Birmanie d'Aung San Suu Kyi, le JT lui a demandé d'enregistrer un faux direct en lui communiquant au préalable le texte de son commentaire, et plusieurs de ses reportages ont été réenregistrés à Paris avec une autre voix que la sienne.
Bah, tout à fait, ce que c'est ce qu'Alain m'a raconté. Personnellement, je n'ai pas eu de difficultés jusque-là.
Vous-même, vous n'avez jamais cédé.
Bah écoutez, non, par exemple, on vous appelle, ne sois pas trop compliqué dans ton duplex, s'il te plaît, ne nous fais pas de diplôme, et puis manque de chance, je crois qu'effectivement, que les téléspectateurs ne sont pas des imbéciles et qu'ils peuvent entendre une analyse un peu poussée, donc pas fait de cadeau de ce point de vue.
Il y a des scènes cocasses, vous racontez une scène de 96, où ça se passe au sommet pour la paix de Sharm el-Cheikh en Égypte, vous avez failli démissionner, mais finalement non.
Ben oui, je m'étais mis d'accord avec Laila Shahid, la représentante palestinienne à Paris, et Jacques Chirac, qui m'avait à la bonne. Ouais. Ils étaient tous les deux à Sharm el-Cheikh. Et ils ont dit à Arafat, vous donnez une interview à lui, à ce monsieur, à Charles Anderlin. Ouais. Et Jean-Luc Manot, qui était le rédacteur en chef à ce moment-là, toute la rédaction était arrivée à Sharm el-Cheikh, il décide que ce n'est pas Anderlin qui fera l'interview, mais une autre collègue. Elle y va, et puis manque de chance, TF1 avait pris aussi quelques images de cette interview qui devait être exclusive, j'étais furieux, et finalement, c'est quand même moi qui suis allé faire l'interview, j'ai dû avoir la chance de passer un bon bout de temps aux côtés de Yasser Arafat, pendant qu'il recevait pas mal de responsables arabes.
Je vais vous dire pourquoi je souris, parce que vous écrivez « Je suis furieux, j'envisage de présenter à Jean-Luc Manot, c'était le patron à l'époque, j'envisage de lui présenter ma démission, mais j'y renonce parce qu'il est capable de l'accepter. » Donc vous êtes un peu quand aussi dans la rodomontade.
Oui, il faut faire quand même attention.
Ouais. On découvre au passage que la retraite à 60 ans, ce n'est pas pour vous. En 2011, vous racontez la fin de votre carrière. C'est Thierry Tulier qui est le patron de l'info à l'époque. Maintenant, c'est le patron de l'info du groupe TF1. Il vous fait comprendre qu'il serait temps que vous pensiez à votre retraite. Et Éric Monnier, qui est son adjoint, vous met un marchand en main. La retraite est un petit poste d'éditorialiste. Je refuse, n'ayant pas confiance en cette direction, ils vont être contents de vous lire. Si c'est ainsi, me dit-il, tu rentres à Paris ou tu resteras au placard. Ils vont être contents de lire ça. Que s'est-il passé alors finalement du coup ?
Ben écoutez, j'ai décidé tout simplement de rester à Jérusalem pour des raisons de sécurité sociale, de cotisation. Voilà, maintenant, également pour des raisons administratives, il aurait été très compliqué de me ramener à Paris, où je n'ai d'ailleurs pas la possibilité de m'installer. Mon appartement est à Jérusalem, ma vie est à Jérusalem. Donc je suis resté jusqu'à mon 70e anniversaire, comme le prévoyait la loi.
Voilà, et puis on pourra lire sous votre plume cette rédactrice en chef du 20h qui vous expliquait que le conflit israélo-palestinien n'intéressait plus personne. Merci beaucoup Charles Anderlin, je rappelle le titre de votre livre, de notre correspondant à Jérusalem, avec un avant-propos de Michel Wieborka, c'est aux éditions Don Quichotte. Merci d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Culture Média continue évidemment. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc surprenant sur le monde des Sugar Babies et Bertrand Chamerois qui revient de vacances pour un écran de veille spécial bricolage. Notre invité, c'est le rappeur, mais il n'est plus seulement un rappeur, il est acteur, Joey Starr. Et quel acteur ? Il est dans la nouvelle série événement de TF1, c'est ce soir, ça s'appelle Le Remplaçant. Et puis dans Les Indispensables, une série documentaire sur le plus grand vol de tableaux et une découverte musicale très pop. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.